Interview.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au téléphone Anne Cantino. Bonjour.
Bonjour, bonjour Yves.
Anne Cantino, vous allez être au Café Théâtre Andarta ce vendredi 28 novembre à partir de 18h pour nous proposer un spectacle qui s'intitule La Promenade, un ouvrage de Robert Walser. Et pour cela, vous serez à proposer des lectures avec des chants a cappella et avec ce titre « Lavez vos rêveuses ». C'est voilà. Un titre pour vous qui a quelle signification ?
Ben, en fait, c'est un nom que je me suis trouvé. En fait, ça fait quelques années que j'ai monté une compagnie de théâtre. Moi, je suis comédienne, chanteuse depuis bientôt 30 ans. J'ai fait une école de théâtre à Strasbourg, une école nationale, et je travaille principalement à Paris. Et puis, en 2005, j'ai eu envie de monter une compagnie de théâtre pour pouvoir proposer des projets personnels. Et en fait, c'est un nom de compagnie qui m'est tombé un peu tout cuit dans le bec, quoi, voilà, en mélangeant la dévoreuse et la rêveuse. Et je me suis dit que ça m'allait plutôt bien. Donc, j'ai gardé ce nom. Donc là, la compagnie, elle est un peu en sommeil pour l'instant. Mais j'ai gardé ce nom. Et du coup, j'ai eu envie de le garder pour ces lectures seules en scène, a cappella. En fait, c'est des lectures que je mets en espace, un peu, que je mets en scène, avec des chants que j'ai choisis dans divers répertoires que j'essaie d'associer au texte. Et j'ai gardé ce nom parce que, voilà, c'est une façon de raconter un peu mon rapport à la vie, quoi, qui est à la fois gourmand, curieux, je pense, assez voilà, ouvert, et puis en même temps qui plane un peu, quoi, voilà.
Parfois. Et donc, vous serez seule en scène avec cette lecture spectacle, et pour cela, vous vous inspirez de textes qui émanent notamment de La Promenade de Robert Walser, c'est ça ?
C'est ça. Alors, Robert Walser, c'est un auteur suisse-allemand qui est mort dans les années 50, que j'avais découvert il y a quelques années parce qu'il avait été monté au théâtre. Il a écrit principalement des nouvelles et des courts textes. Et puis, quelques romans. Il y a Les Enfants Tanner, il y a l'Institut Benjamin Tarr. Il a réadapté des contes de fées aussi. Et puis, il a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Zeeland, dans lequel il y a plusieurs nouvelles, dont La Promenade. Et en fait, je l'avais découvert il y a quelques années, puisque donc il avait été monté au théâtre par un metteur en scène que je connaissais qui s'appelle Joël Joanneau. Et il y a quelques années, en fait, il y a un ami à moi qui a vu mes photos, parce que je suis aussi photographe, et je fais des photos de toutes petites choses, de petites lumières, de petits objets, de feuilles, de choses très, très, voilà, un peu dévoreuses aussi. Et il m'avait dit que ça lui faisait penser à Robert Walser. Donc j'ai replongé dans cet auteur qui est totalement méconnu en France parce que malheureusement on est un peu francophone centré et franco je sais pas comment on dit et donc et en plus là lui il écrit il était suisse allemand donc il écrit en allemand suisse allemand. Il a été traduit en l'occurrence par Marion Graff, donc ça c'est la traduction que je choisis. Et en fait j'ai fait un montage, donc c'est une nouvelle qui est un petit peu longue. Et j'ai fait un montage, j'ai pris quelques épisodes de cette promenade et j'y ai rajouté des chants. Et en fait, la promenade, ça raconte, c'est tout simple, c'est l'histoire d'un homme qui écrit, qui n'arrive pas à écrire chez lui et qui sort de chez lui un beau matin et qui rentre chez lui le soir et il raconte toute sa journée de promenade qui est à la fois pleine de surprises, pleine de joie, pleine de mélancolie, où il va chez son tailleur, chez son banquier, chez une dame pour manger, il y a plusieurs épisodes comme ça, et c'est très, très, très gourmand et très, il y a plein de fantaisie, et ça m'a beaucoup touchée, donc j'ai eu envie de la partager.
Justement, la singularité de Robert Walser, quelle est-elle à vos yeux ?
Ben pour moi, c'est un auteur, alors c'est très étrange parce que c'est un auteur, donc il est né en 1878, si mes souvenirs sont bons. Il a été assez connu à l'époque de Kafka. Kafka aimait beaucoup son travail, il a été à Berlin, il a eu une petite reconnaissance. Et puis en fait, il n'a pas supporté cette reconnaissance et il est retourné en Suisse. Et c'est un auteur qui, c'est presque un auteur de l'effacement en fait. C'est un auteur qui n'est pas du tout dans les mondanités, qui n'a pas envie de se montrer, qui est vraiment, voilà, c'est un auteur comme un auteur de peu, on pourrait dire. Et d'une espèce de modestie suraffirmée, qui est presque une forme d'orgueil, hein, d'une certaine manière, mais que je trouve très attachante dans un moment, dans un monde où il nous faut à tout prix paraître, être le plus fort, le plus rapide, le plus performant, le plus beau, le plus fort, etc. Lui, c'est vraiment tout l'inverse. Et donc, il passe par les marges. Et c'était aussi un auteur qui écrivait énormément en marchant, en se promenant. Donc la promenade, ça raconte vraiment ça aussi, comment d'une certaine forme de flânerie, de lenteur, de détachement est lié à la création, à la créativité, et non pas du tout la performance. Et puis c'est aussi un auteur qui a quand même passé les 30 dernières années de sa vie en asile psychiatrique. Donc en fait, il était vraiment aussi un peu borderline, un peu à la marge de la société. Et donc il y a tout cet aspect aussi un peu proche des mondes parallèles, des mondes un peu, voilà, de choses un peu étranges qui transparaît aussi dans ses textes. Et ça, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Donc en fait, ce que je vais lire et mettre en scène, en fait, ce sont des lectures spectacles, c'est-à-dire j'ai le texte en main et je le connais pas tout à fait par cœur, mais j'essaie de le faire oublier tout en le gardant présent. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'assumer que un acteur ou une actrice n'est rien sans un texte et que qu'on n'a pas la science infuse et que là, en l'occurrence, j'ai vraiment envie d'assumer la présence des auteurs et des autrices que je lis. Donc, c'est mis en scène, c'est mis en espace, à chaque fois, en fait, en fonction des lieux où je me déplace. Là, Adi, je ne vais lire que La promenade de Robert Walser, avec des chants. Donc, il y a toute une série de chants. Il y a le voyage d'hiver de Schubert. Il y a des chants beaucoup plus pop. Il y a des chants, voilà, il y a tout type de chants. Et puis, il y a d'autres programmes que je lis dans d'autres endroits. Donc, il y a effectivement La bonté invisible de Maurice Maeterlinck, que je vais lire à Montélimar samedi 29, donc juste après être passé à Guy. Donc ça, c'est un texte beaucoup plus sur l'intériorité, la bonté des hommes, etc. Il y a une lecture que je fais autour du vivant avec des textes de Baptiste Morisot, qui est un auteur contemporain, un éthologue contemporain qui écrit sur les animaux, sur l'intelligence des animaux, et puis des textes de Maurice Maeterlinck aussi, de nouveau, qui écrit aussi sur l'intelligence des fleurs. Enfin voilà, il y a plusieurs programmes que je promène comme ça, en fonction des lieux, en fonction des demandes, en fonction de mon inspiration aussi. Et il y a ce concert qui s'appelle « On ne sait rien de la seconde » qui vient, avec des chansons que j'ai écrites et que Grégory Hoth a composées. Grégory Hoth est un pianiste de jazz avec qui j'ai eu l'occasion et la chance de travailler il y a quelques années. Donc il y a ces chansons qu'on a enregistrées et que je continue à chanter. Enfin voilà, il y a plusieurs programmes. Donc c'est un tissage comme ça de diverses lectures, spectacles, en fonction des endroits.
Alors pour 10, c'est La promenade, hein, de Robert Walser. Vous avez opéré un choix de texte pour ces lectures, spectacles. Et il y a aussi quelques chansons qui seront agrémentées. Est-ce que ces chansons sont issues aussi de cet esprit, de ce livre ?
Alors en fait, moi je me suis inspirée, enfin comment dire, en fait en choisissant, donc il y a cette promenade, la lecture, si on la lit en entier, ça doit durer à peu près 2 heures, 2 heures et demie, je pense. Donc j'ai vraiment choisi de choisir des passages qui pour moi sont très très spécifiques. Donc du coup la lecture, elle fait à peu près 1 heure et quart. Et dans ces pour faire comme des chapitres, pour faire comme des transitions entre ces passage de cette nouvelle, j'ai choisi des chants et des chansons qui sont pas de mon répertoire à moi, mais qui sont d'autres répertoires, qui permettent de faire à la fois comme des respirations, qui sont pas forcément en français aussi, c'est pas forcément des chansons françaises, pour que le spectateur, la spectatrice, l'auditeur puisse laisser son esprit vagabonder, penser à ce qui vient d'être lu, vient d'être dit, ce que ça lui fait, etc. Donc voilà, donc il y a par exemple Le Voyage d'hiver de Franz Schubert, c'est en allemand. Il y a L'air de chérubin de Mozart, ça c'est en italien. Il y a un air de Roméo et Juliette de Gounod, donc ça c'est plutôt en français. Et puis il y a un morceau de Kurt Weill en anglais. Enfin voilà, il y a plusieurs, il y a des choses en anglais, de Radiohead, etc. Et en fait, à chaque fois, pour moi, d'abord, ce sont des chants et des chansons que j'aime beaucoup, et puis qui me paraissent reliées à chaque fois au passage que je viens de lire de la nouvelle.
Alors, on va marquer une petite pause musicale hein, avec un morceau qui s'intitule « J'en veux pas ». Pour moi, oui. Ça résonne un peu avec cet effacement que vous percevez auprès de Robert Walser hein, par rapport à sa vie. Ce titre, que raconte-t-il?
Alors là, j'en veux pas, c'est pour moi, c'est plutôt très différent, c'est vraiment quelque chose de très personnel, c'est que moi je n'ai pas d'enfant et j'ai choisi de ne pas en avoir. Et en fait, dans cette chanson, je raconte pourquoi, ou pourquoi il n'y a pas de pourquoi, en fait, voilà. C'est-à-dire que quand on est une femme et qu'on a fait le choix de ne pas avoir d'enfant, eh bien, on est régulièrement ramené à la question de savoir pourquoi. Et moi, j'essaye d'expliquer dans cette chanson de façon un peu humoristique et légère qu'il n'y a pas de pourquoi, voilà. Et qu'il n'y a pas forcément à poser tout le temps cette question, pas plus qu'on ne pose aux parents la question de savoir pourquoi ils ont des enfants. Pourtant, parfois, cette question se poserait pour être légitime, mais voilà.
Je les câline, je les chéris, je les adore, je les bénis. Je leur raconte des histoires pour qu'ils s'endorment dans le noir. Je les emmène par la main faire un petit tour au jardin. Ils me font rire, me font craquer les angelots, les satanés. Je peux changer leur couche culotte, leur faire avaler des compotes, répondre à leur pourquoi sans fin, sans m'énerver, sauf à la fin. Ça me touche et ça m'intéresse, les problèmes de rougeur aux fesses, dedans de halte garderie, l'adolescence, les cachotteries. J'en veux pas, j'ai pas d'argument à donner, pas de raison à invoquer, je n'ai pas à me justifier. J'en veux pas, ce n'est pas une question de choix, j'en fais simplement le constat, et j'aimerais qu'on en reste là. Moi j'en veux pas. Les soucis, les contretemps de mes copines, mères à plein temps, leurs joies, leurs doutes et leurs galères, je les partage sans commentaire. Je ne veux convertir personne en retour, j'aimerais qu'on s'abstienne de me rabâcher, que j'y perds à ne pas vouloir être mère. Mais on me casse les oreilles, tu sais, les siens, c'est pas pareil. Et puis quand on aime vraiment, ça vient tout seul, c'est évident. Ah, mais peut-être que tu peux pas. Excuse-moi, quoi? C'est pas ça? Alors arrête d'être égoïste. Ça suffit pas, la vie d'artiste. Blablabla. J'en veux pas. J'ai pas d'argument à donner. Pas de raison à invoquer, je n'ai pas à me justifier. J'en veux pas, ce n'est pas une question de choix, j'en fais simplement le constat, et j'aimerais qu'on en reste là. Moi j'en veux pas. J'entends les raisons politiques, sociologiques, philosophiques, économiques, métaphysiques, psychologiques, évangéliques. J'entends des raisons poétiques, hyperboliques et magnifiques. J'en entends toute la journée, des bonnes raisons d'enfanter. J'ai pas plus peur que mes parents, j'ai pas moins peur que les mamans. Je suis pas plus seule, pas moins heureuse, je suis pas plus libre, pas moins soucieuse. silencieuse, pas plus ni moins épanouie. Je suis pas une femme moins accomplie, je ne suis pas mal accompagnée. J'en veux pas, j'ai pas d'argument à donner, pas de raison à invoquer, je n'ai pas à me justifier. J'en veux pas, ce n'est pas une question de choix, j'en fais simplement le constat, et j'aimerais qu'on en reste là. Moi j'en veux pas.
Cette présentation de Robert Walser, pour vous, qu'est-ce que dégage ce texte de la promenade ? Certes, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup marcher, je sais ça, et il y avait aussi cet esprit d'observation, certainement, également. Et, à ma connaissance, il y avait aussi, vous parliez de photos tout à l'heure par rapport à un ami qui faisait suggérer Robert Walser. Il a rédigé des textes de très petites factures, hein, je crois, aussi, très minuscules.
Oui, tout à fait. Oui, il a écrit des... il a écrit beaucoup, beaucoup de nouvelles. Et puis, il se trouve qu'il y a tout un... Comment dire ? Un énorme recueil de textes qui a été retrouvé après sa mort, qu'il écrivait au crayon à papier en très, très petits caractères. Et qu'on a appelé, je ne sais plus si c'est lui ou si c'est les gens qui l'ont retrouvé, qui ont appelé ça les microgrammes. Et en fait, j'avais écouté toute une émission, il y a beaucoup d'émissions qui passent sur certaines radios, ben sur France Culture, il y en a eu quelques-unes, etc. Mais où était expliqué que, en fait, eh bien lui, il avait une magnifique calligraphie, Robert Walser. Il a toujours vécu de peu. Il a été embauché dans des banques, il a été intendant dans des familles assez riches, etc. Parce qu'il avait une magnifique calligraphie, notamment. Et puis parce qu'en fait, lui, il travaillait quelques mois ou quelques années. Puis après, quand il avait suffisamment d'argent, il arrêtait de travailler pour écrire. Et en fait, comme il écrivait en se promenant, et qu'à l'époque, c'était une plume et de l'encre, et bien du coup, il écrivait au crayon à papier quand il se promenait. Et il écrivait des très, très, très petits caractères. Et donc, ça s'appelait les microgrammes. Et il a écrit quantité de très courts textes. Donc, il y a plusieurs recueils de très courtes nouvelles, de choses très drôles, d'observations dans les cafés, dans les brasseries. C'était quelqu'un qui observait beaucoup, en particulier les femmes. Hein, il était très, très amateur de femmes, mais de façon très pudique, comme ça, à la fois très tendre. Il était parfois aussi très rosse, hein, dans certaines nouvelles. Il est assez coriace, dans la promenade d'ailleurs, hein, avec la rapidité, les voitures, etc., avec les banquiers, avec tout ce qui a rapport avec l'argent et avec la modernité. Et donc, voilà, il y a des choses très, très faciles à lire, très courtes. Et puis des choses un peu plus denses, comme par exemple Les Enfants Tanners, qui est un long roman, et il se promène et il raconte beaucoup, beaucoup sa vie, mais de façon détournée dans Les Enfants Tanners.
À ma connaissance, je connaissais ce film aussi, L'Institut Benjamin Todd des frères Keyes.
Oui.
C'est un film qui m'a beaucoup marqué cet enfermement, en quelque sorte, aussi.
Oui, tout à fait. Ben moi, je l'ai pas vu ce film, mais j'ai lu le livre. Et en fait, c'est une sorte de témoignage parce que lui-même a fait une école de domestique. Donc c'est une école de domestique. Il raconte l'histoire d'un institut qui est un institut de la domesticité où des jeunes hommes apprennent comment servir au mieux leur maître. Et lui, il a fait une école, je crois, de domesticité comme ça. Et il a été domestique. Pendant quelques périodes, justement dans les périodes où il devait un peu gagner sa vie et où il devait, il vivait depuis. Il a été entretenu aussi beaucoup par sa sœur et par son frère qui était peintre. Et puis dès qu'il avait 3 francs en poche, enfin 3 sous ou 3, je sais pas, c'était des francs suisses, j'imagine l'époque, ou je sais pas, eh bien il repartait pour écrire. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a écrit aussi un magnifique. Ah, pardon, je ne sais pas, je vous coupe peut-être.
Non, non,
peut-être que vous
allez-y,
avez des
allez-y.
questions. Il y a un ami à lui qui est aussi devenu son légataire testamentaire, qui s'appelle Carl Zelig, et qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Promenade avec Robert Walser, qui lui, il a été le voir donc pendant les 30 dernières années de sa vie où il était en asile, en institut. En Suisse, Robert Walser a décidé de ne plus écrire. Il ne pouvait plus écrire et il n'avait plus envie d'écrire. Mais il avait encore, on pourrait dire, toute sa tête, parce qu'il n'était pas. Enfin, moi, je ne sais pas, il y a plusieurs analyses. Moi, j'ai l'impression qu'il n'était pas du tout ce qu'on pourrait qualifier de fou, si on peut encore utiliser ce terme. Je ne suis même pas sûre qu'il soit encore vraiment juste. Mais en tout cas, il avait encore. Voilà, une grande acuité sur le monde, sur la littérature, sur les œuvres d'art, sur son temps. Et du coup, Carl Zelig venait lui rendre visite au moins deux fois par an. Et il faisait des longues promenades et jusqu'à la fin de sa vie, il se promenait. Et il se promenait avec Carl Zelig, mais il se promenait aussi seul. Et Carl Zelig a raconté ses promenades dans ce très beau livre. Et on voit comment Robert Walser... Ben voilà, le regard sur le monde, son élaboration de sa poésie, de sa sensibilité. C'est très très beau, très émouvant.
Alors, cette représentation opérée au Café Théâtre Andarta, pour vous, il y a aussi cette préparation, notamment cette acquisition du lieu, cette occupation de cet espace pour être au plus près et peut-être mieux exprimer vos textes et chants.
Oui, tout à fait. Ben, c'est pour ça qu'en fait, j'avais très envie de pouvoir faire ce texte-là, parce que je suis passée plusieurs fois par nous, et on m'avait parlé de ce café-théâtre, et donc du coup, j'y suis passée une fois ou deux, puis là, j'y suis repassée en septembre, parce que je faisais d'autres dates dans la Drôme. Je viens régulièrement dans la Drôme pour faire des lectures à Bordeaux, à Dieulefi, à Montélimar, et là j'ai rencontré la personne qui programme, et c'est vrai que je suis très contente, parce qu'il y a effectivement un espace très convivial avec les tables, les gens sont très près, et en fait moi je suis donc comme je vous le disais, comédienne de théâtre. J'ai joué dans des spectacles un peu importants, dans des théâtres importants à Paris, en tournée en France, etc. et avec ce projet j'avais vraiment envie de revenir au plus près de l'écoute, au plus près de la présence avec les spectateurs et les spectatrices, qu'on puisse échanger, qu'il puisse y avoir un rapport au moment présent très fort, et comme avec la sensation que le moment qu'on est en train de vivre est unique, parce que c'est ici les gens qui écoutent et puis moi, et ça ne se reproduira plus, et il y a beaucoup moins de, comment on peut dire ça, de distance, voilà. Et donc du coup c'est beaucoup moins anonyme, et j'avais envie de ça, et je trouve que le Café Théâtre Andarta, avec ce qu'il son atmosphère, ça s'y prête totalement. En tout cas, moi je suis très impatiente de lire ce texte là
et justement, par rapport à votre parcours, Anne Cantino, vous êtes actrice, chanteuse, autrice, pédagogue, photographe, et que pour vous il y a cette nécessité d'aller vers divers horizons pour peut-être vous découvrir aussi et mieux exprimer ce que vous avez envie de chanter ou de jouer.
Oui, ben, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'expérience, je me rends compte que les choses que je fais ou qu'on me propose de faire comme rôle, etc., finalement, m'apprennent beaucoup sur moi-même, oui. Et puis parce que ça m'intéresse, je pense qu'il y a un rapport, il y a vraiment un rapport à l'exploration de monde à travers les textes et d'exploration de soi-même. Et du coup, je me dis que plus j'avance en pratique et plus en pratique artistique, et plus d'une certaine manière, mon rôle, c'est de laisser tomber le savoir-faire et d'être dans une très grande porosité à ce qui se passe au présent. Et que bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces textes-là aussi, hein, même si je les ai en main et que je les ai pas appris par cœur, il y a un énorme travail en amont, mais que je tâche d'invisibiliser. Ça, c'est normal. Il faut pas que, enfin, moi, j'estime qu'il ne faut pas qu'on voit le travail d'une certaine manière. Mais, et puis surtout parce que je me dis qu'il y a toujours de l'imprévu, et c'est finalement l'imprévu qui va être le plus fécond et le plus propice à la rencontre, et avec le texte, et avec le public, et avec moi-même. Et c'est ça qui m'intéresse.
Est-ce que justement le texte de Robert Walser dénotait peut-être une certaine virginité de regard, d'être aussi de cet auteur et qui résonne en vous aussi?
Oui, il y a une forme de candeur chez lui, qui est une fausse candeur, parce qu'il a quand même, il est très très malin et malicieux, mais il y a quand même une volonté, c'est ça qui me touche aussi, il y a une volonté de s'ouvrir au monde sans préjugés. Et ce qui est très très beau, c'est que dans toutes les rencontres qu'il fait dans cette promenade, que ce soit des rencontres de personnes ou de paysages ou d'états de lui-même, chaque fois, il déjoue les préjugés qu'on pourrait avoir, il déjoue voilà, il n'y a pas de surplomb, il n'y a pas de jugement, il y a que des impressions mouvantes. Et donc émouvante, et voilà, et ça me touche, parce que, et je trouve ça très important de le, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, et c'est un des premiers que j'ai choisi pour ce projet de lecture La Dévoreuse. C'est un des premiers avec La Bonté invisible de Maurice Maeterlinck, et en fait d'une certaine manière les deux textes se répondent, parce qu'il y a vraiment voilà, cette bonté profonde auquel croit, je pense, croyait Robert Walser, malgré toute sa mélancolie, et sans doute peut-être à cause de ça, et à cause aussi de sa vulnérabilité, de sa marginalité, il y avait un rapport très bon au monde, aux choses et au possible de cette vie. Et moi, voilà, c'est comme un manifeste en fait. Et ça, c'est très important pour moi maintenant, ça donne du sens à la fois au fait que je me déplace, que je prenne ma voiture, que je bouge, que j'aille porter ces textes, que j'aille les lire, que j'aille rencontrer les gens. Et ça donne du sens aussi à ma pratique artistique et à ma pratique professionnelle de comédienne.
On peut visiter aussi le site SoundCloud où vous y insérez quelques extraits hein, de lecture également. Voilà,
Oui, il y a
pour le
des
plus.
textes aussi. Bah oui, il y a différents extraits de textes que j'aime, que j'ai lus, et voilà. Et d'autres chansons.
À l'avenir, pour vous, vous avez d'autres perspectives artistiques?
Oui, alors en fait, là, dans un tout autre genre, je suis aussi comédienne, je suis comédienne de théâtre, mais donc je suis en tournée avec un spectacle jeune public pour les adolescents, qui s'appelle Arthur et Ibrahim. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est une compagnie qui s'appelle La Compagnie du Double. Et on a encore des dates en février et mars à Limoges et Martigues. Donc ça, c'est un spectacle qu'on a créé il y a très longtemps. Et puis là, donc il y a, ben, du coup, après-dit, je vais lire à Montélimar, à la librairie Champs Libres, je vais lire La Bonté invisible de Maurice Maeterlinck. Donc samedi 29 à 19 h. Et puis ben voilà, je continue à être sur les routes avec ces lectures. Et j'ai un autre, j'ai envie d'en rajouter en fait, en plus de toutes celles que je fais déjà. Je voudrais travailler sur des monologues de théâtre de femmes, et donc faire un montage avec ces monologues-là. Et voilà. Et donc voilà, je suis toujours en train d'inventer d'autres choses.
Pour terminer, donc, ce rendez-vous vendredi 28 novembre à 18 h au Café Théâtre Andarta, pour se renseigner et réserver, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone à votre connaissance?
Oui, il y en a un. Alors attendez, qui est le 04 60 22 00 81. Donc ça, c'est le numéro du Café Théâtre. Donc c'est 57 rue Émile Laurent à 10. Et voilà, c'est à 18 h. Et ça, oui, ça dure entre 1 h 15, 1 h 20, peut-être un peu moins. J'essaie de faire. Voilà, ça dépend de. En fait, ce qui est intéressant avec ces lectures, c'est que en fonction des soirs, il y a des choses que je rajoute, que j'enlève, que je. Voilà. Mais bon, c'est à peu près ça.
Vous avez aussi sur certains réseaux sociaux une page, hein, notamment sur Facebook, avec quel titre d'ailleurs?
Alors, c'est Anne Cantino, La Dévoreuse. Donc, La Dévoreuse, ça s'écrit L-A, plus loin, D-E, accent aigu, V-O-R-E, accent circonflexe, V-E-U-S-E, Dévoreuse, en un seul mot. Et ça, c'est ma page Facebook et j'y poste régulièrement ce que je fais, des informations, des photos, voilà. Et puis, on peut me contacter, du coup, et puis par Instagram aussi. Donc, Instagram, c'est Anne DVRV. Voilà.
Comment fonctionne votre distribution de spectacles, vous faire connaître également?
Alors, en fait, ce projet, moi, je l'ai imaginé en ce que j'appelle en circuit court, c'est-à-dire que c'est un projet de poche et du proche, voilà. Et donc, en fait, à chaque lecture, chaque endroit où je vais, c'est l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes, de créer du lien et de pouvoir, grâce au bouche à oreille, grâce au contact des gens directement sur place, de pouvoir aller de lieu en lieu, de pouvoir avoir d'autres conseils, d'autres approches, d'autres liens et de pouvoir développer ce projet comme en étoile, comme ça. Voilà. Donc en fait, il se trouve, dans la Drôme, j'y viens souvent parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de répondants, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité et aussi du coup un rapport très actif. Je trouve des spectateurs et des spectatrices qui quand ils aiment, ils ont envie de partager, de développer, d'ouvrir. Et du coup, il se trouve que chaque fois que j'ai fait des dates, que ce soit, je disais tout à l'heure, à Dieulefi, à Bordeaux, à Montélimar ou ailleurs, ça m'a donné d'autres points de chute ensuite. Et moi-même, je suis en recherche, c'est-à-dire qu'en même temps que je me promène avec ma voiture et que je me promène de lieu en lieu, j'essaie de guetter les lieux. Et donc, je compte vraiment et je tiens aussi à cette façon de procéder très en réseau, mais en réseau, oui, en réseau court, c'est-à-dire par les gens qui viennent. Donc, j'espère pouvoir, par exemple, que cette date au Café Théâtre, en Darta, pourra potentiellement donner d'autres, soit au même endroit avec une autre lecture, soit à d'autres endroits si des personnes sont intéressées et ont envie de faire venir des lectures. Je lis dans des lieux très très divers, je lis dans des cafés associatifs, mais je lis aussi dans des galeries, je lis chez des particuliers, je lis dans des petites scènes, dans des cours, dans des jardins partagés, enfin voilà. Et comme j'ai plusieurs programmes de lecture autour de plusieurs thématiques, ça permet de diversifier le type de lieu et le type de texte. Voilà.
Ben, merci. Donc,
peut-être je reviendrai.
Oui, je pense qu'il y aura...
J'en serai ravie.
Voilà,
très envie de fidéliser d'une certaine manière des lieux et des publics avec ces projets intimistes.
Et nous allons arriver à la fin de l'émission. Alors, je propose, pour terminer celle-ci, un morceau qui s'intitule « La femme des No Man's Land ». Donc, ça aussi, c'est un travail, c'est une chanson sur vous ou d'après quoi ?
Ah oui, complètement.
Oui.
Ça, c'est une chanson complètement sur moi. Oui, oui. Et c'est un texte que j'ai écrit aussi, hein, comme « J'en veux pas ». Et c'est toujours Grégory Ott qui l'a composé. Et oui, c'est une femme qui, vous allez écouter la chanson, mais je peux pas dire mieux de moi-même, je crois.
Voilà. Eh bien, Anne Cantino, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps sur Air du Bois pour nous parler donc de cette représentation de La Promenade, une proposition inspirée de cet ouvrage de Robert Walser. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Je vous remercie beaucoup. Très bonne soirée à vous aussi. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Je suis la femme des No Man's Land et des endroits de contrebande. J'arpente les plus personne, moi-même en somme. pas d'habitude, pas de posture, pas d'attitude, du vide, du creux, de la vacance, rien pour sauver les apparences. C'est sans effet que j'ambitionne et des endroits de contrebande où je n'ai pas de compte à rendre, où je n'ai personne à attendre, où je n'ai pas à assurer, où je n'ai pas à rassurer, rien à prouver. Dans ces non-lieux libres de tout, j'oublie le monde et ses tabous. Je peux réinventer pour moi une autre vie et d'autres choix. N'ayant plus d'identité claire, je disparais dans l'univers imaginaire.
Chambre d'hôtel impersonnelle, dans une ville qui n'a rien pour elle. Combien d'inconnus ont rêvé dans le lit où je suis couchée. Train à l'arrêt, en pleine voie. On attend, on ne sait trop quoi. Pas envie que ça redémarre. On pourrait bien changer d'histoire.